podcasts de Radio Vatican.
En 1947, la partition des Indes britanniques permettait à deux États indépendants de voir le jour, le Pakistan et l'Inde. Peu à l'époque avaient parié sur la pérennité et la viabilité de cette nation naissante. Pourtant, 70 ans après, l'Inde représente une des principales puissances d'Asie et nourrit de grandes ambitions. Alors, quels ont été les ressorts de son émergence? Quelles sont les étapes qui ont marqué son histoire contemporaine? Quels sont enfin les défis qui se présentent à ce géant démographique, économique et militaire en devenir? Interrogé par le journaliste Emmanuel Derville, correspondant en Asie du Sud depuis 2009 pour son ouvrage « Métamorphose de l'Inde depuis 1947 », dix témoins évoquent et analysent autant d'épisodes marquants de ces 50 dernières années. La partition, la guerre contre la Chine, les stérilisations forcées, la discrimination positive, etc. Sans oublier les effroyables pogroms anti-musulmans de 2002 dans l'état du Gujarat. Les pires violences depuis l'indépendance de l'Inde, elles causèrent la mort de quelques 2000 personnes et furent l'œuvre de fondamentalistes hindous hostile aux minorités religieuses. À l'époque, c'est Narendra Modi, figure montante du BJP, le parti nationaliste hindou, qui est le gouverneur du Gujarat. Sa passivité et son silence devant ces massacres seront interprétés comme un clair encouragement à l'égard des meurtriers. Mais son ascension politique n'en est pas freinée pour autant, au contraire, puisque Modi sera ensuite élu Premier ministre de l'Inde. Emmanuel Derville revient avec nous sur ces événements, prélude de la montée en puissance des fondamentalistes hindous en Inde et de leurs conséquences sur la vie des minorités religieuses chrétiennes et musulmanes aujourd'hui.
Alors le fondamentalisme hindou n'est pas une idéologie nouvelle, mais on peut dire que globalement, il prend finalement sa source dans les années 30. À l'époque, c'est un idéologue qui s'appelle Golwalkar, qui va en fait théoriser le fondamentalisme hindou. Ce qui est très important pour comprendre pourquoi les minorités religieuses peuvent souffrir en Inde, c'est de comprendre ce qui est au cœur du fondamentalisme hindou. Et le fondamentalisme hindou pense que les minorités religieuses, en particulier les chrétiens et les musulmans, sont en fait des étrangers en Inde, parce qu'il part du principe que le christianisme et l'islam sont des religions qui sont étrangères à l'Inde. Ce sont des religions qui sont arrivées finalement peut-être assez tard dans l'histoire de l'Inde, et que donc ce sont des religions qui n'ont pas leur place dans un pays qui est perçu par les fondamentalistes comme devant être une nation hindoue avant tout. C'est un argumentaire un peu curieux malgré tout, parce qu'il faut tout de même rappeler que la communauté chrétienne en Inde est une des plus vieilles du monde, hein, c'est Saint Thomas, qui a évangélisé les premiers chrétiens au premier siècle de notre ère. Donc il faut évidemment prendre un peu de distance par rapport à cette interprétation.
Alors justement, ce sont les fondamentalistes hindous qui sont derrière les émeutes, les pogroms anti-musulmans de 2002, c'était dans l'état du Gujarat. À l'époque, le gouverneur de cet état, c'était Narendra Modi, donc l'actuel premier ministre indien, qui a été accusé de passivité, voire d'encouragement des émeutiers. Et donc, dans le chapitre de votre livre consacré à ces événements, on découvre que ce sont bel et bien ces pogroms anti-musulmans qui ont été en quelque sorte le catalyseur de la carrière politique de Modi.
Oui, absolument. Narendra Modi va utiliser le pogrom comme un tremplin pour sa carrière politique. Pour dire les choses simplement, quand Narendra Modi est élu chef du Gujarat à la fin des années 90, au début des années 2000, c'est un illustre inconnu sur la scène politique indienne. Personne ne le connaît vraiment. Là où le pogrom de 2002 est vraiment un changement pour lui, c'est qu'en laissant faire, en laissant les émeutiers attaquer les musulmans, il va ensuite se poser comme le défenseur de la communauté hindoue en Inde. Il va se poser comme celui qui finalement va défendre les hindous contre les attaques supposées qui seraient commises par les musulmans indiens qui sont considérés par les fondamentalistes hindous comme une sorte de cinquième colonne au service du Pakistan. Et c'est ce discours-là qui va lui permettre d'être réélu deux fois de suite à la tête de l'État du Gujarat. Ensuite, il va changer un peu son discours, il va davantage se poser comme un bâtisseur, comme quelqu'un qui est capable de redynamiser la croissance économique, quelqu'un qui est capable de redynamiser la création d'emplois. Mais c'est incontestable que pendant 5 à 6 ans après le pogrom, en se posant comme étant le défenseur des communautés hindoues, eh bien, ça va lui permettre d'entamer sa carrière politique, oui.
Modi qui est au pouvoir, donc à la tête de l'Inde depuis 3 ans. Depuis ces 3 années, comment la situation des minorités, je parle spécialement évidemment des chrétiens, des musulmans, comment cette situation a-t-elle évolué?
Alors là, on a affaire à un paradoxe, parce que d'un côté, l'Inde n'est pas devenue une république fondamentaliste hindoue. L'Inde reste encore aujourd'hui une république laïque, malgré l'arrivée au pouvoir du BJP. Ensuite, il y a un autre élément important, c'est que le gouvernement indien est assez soucieux de son image, notamment parce qu'il cherche à attirer les investisseurs étrangers. Et donc, on n'a pas eu de pogrom contre les musulmans ou les chrétiens depuis l'arrivée au pouvoir du BJP il y a 3 ans. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on a en Inde un contexte politique qui favorise les agressions contre les chrétiens et contre les minorités religieuses au sens large. C'est lié au fait, par exemple, que le gouvernement et certains États du pays plaident ou interdisent l'abattage des vaches, qui est considéré par certains fondamentalistes hindous comme un animal sacré. Il y a aussi des groupes fondamentalistes hindous qui, depuis plusieurs années, font ce qu'on appelle des cérémonies de reconversion. C'est quelque chose qui n'existe pas dans l'hindouisme, mais que eux ont quelque part théorisé, mis en pratique pour reconvertir des chrétiens et les ramener dans le giron de l'hindouisme. Donc ça, c'est clairement, on a un gouvernement au niveau fédéral et dans beaucoup d'États du pays qui est très sympathique, très compréhensif par rapport à cet agenda fondamentaliste. Et donc, dans ces conditions, c'est pas très étonnant de voir que les agressions contre le clergé ou les chrétiens en Inde se multiplient depuis 3 ans. Il y a clairement une dégradation. Le rapport de la Commission américaine sur l'état des libertés religieuses dans le monde disait notamment, il y a quelques semaines, que maintenant en Inde, il y a les attaques contre le clergé et les églises ont lieu tout de même 10 fois par semaine. Et ça, c'est 3 fois plus qu'en 2015. Et ça, c'est clairement lié à l'attitude très passive au fond, notamment du Premier ministre indien Narendra Modi, qui finalement ne condamne que très mollement ces violences. Pour prendre un exemple, il a déclaré récemment que tuer au nom de la protection de la vache n'était pas acceptable. Voilà, on est typiquement dans des déclarations qui manquent de fermeté et qui encouragent ces agressions.
Donc c'est une sorte de mentalité diffuse qui est en train de gagner un peu la société et qui est, encouragée tacitement par le pouvoir.
C'est ça. Il y a un changement qui est en train de se faire dans la société indienne à ce niveau-là, où finalement les fondamentalistes ont un peu quartier libre, si j'ose dire. C'est un peu inquiétant parce qu'il faut se souvenir que dans les années qui ont précédé le pogrom anti-musulman de 2002 au Gujarat, on avait assisté au Gujarat à un phénomène un petit peu similaire, où les fondamentalistes hindous infiltraient certains éléments importants de la société, les forces de l'ordre, les avocats, une partie de l'administration, le système éducatif. Et donc, ces gens-là sont dans une optique de réformer la société en profondeur. Donc, pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas eu de pogrom contre les minorités religieuses. Malgré tout, si le BJP remporte une fois encore les élections qui auront lieu en 2019, qu'il se maintient au pouvoir et qu'il parvient à obtenir une majorité absolue à la chambre haute, qui complétera celle qu'il possède à la chambre basse, alors là, la situation des minorités religieuses pourrait se dégrader très fortement.
Alors, dans votre livre, concernant ce chapitre donc sur les pogroms de 2002 et la montée en puissance des fondamentalistes hindous, vous interrogez une journaliste qui, elle, a vécu de près ces événements, et elle estime à la fin du chapitre que l'Inde semblait avoir retenu les leçons de 2002. Est-ce que vous pensez que ce soit effectivement le cas?
Alors, oui et non. L'Inde a effectivement retenu les leçons de 2002, dans la mesure où, malgré tout, la société civile reste active et se mobilise pour que, un jour peut-être, le Premier ministre Narendra Modi soit sous le coup d'une véritable enquête, qui fasse la lumière sur le rôle qu'il a pu jouer à l'époque en 2002. Il est vrai que le système judiciaire indien, malgré tout, même s'il est très lent, continue de travailler sur ces dossiers. Pour vous donner un autre exemple, au début des années 90, en 1993, quand des fondamentalistes hindous avaient détruit une grande mosquée, la mosquée de Babur, dans l'état de l'Uttar Pradesh, dans l'est de l'Inde, à l'époque, les fondamentalistes hindous avaient pu agir comme ils le voulaient. Malgré tout, aujourd'hui, depuis quelques semaines, on a appris que les procédures judiciaires contre les grands leaders du BJP, qui étaient derrière cette destruction, eh bien, ces procédures judiciaires ont repris. Par exemple, le chef du BJP à l'époque, qui s'appelle Elke Advani, qui maintenant est un vieux monsieur de 90 ans, est sous le coup d'une procédure judiciaire. On ne peut pas exclure la possibilité que peut-être un jour, eh bien, il comparaisse devant un tribunal pour ce qu'il a fait à l'époque lors de la destruction de la mosquée de Babur. Donc on peut aussi rester optimiste, il n'est pas exclu que dans 5, 10, 15 ans, eh bien, la justice indienne continue de travailler et que les responsables du pogrom, notamment peut-être Narendra Modi, soient traduits devant un tribunal. Il faut aussi quand même souligner que depuis environ 15 ans, beaucoup de fondamentalistes hindous qui ont joué un rôle très important dans le pogrom de 2002 ont été condamnés à des peines de prison à vie. Donc malgré tout, il faut aussi comprendre que la justice indienne fait son travail et que l'Inde, de ce point de vue-là, est aussi un état de droit.
Des propos recueillis par Manuela Afigi.